Afrique, les infos à Washington.
Jean-Roger Billon, Le Monde aujourd'hui, édition du mardi 22 décembre 2020. Bonjour, bienvenue. Droits de l'homme au Mali, les avocats de Boubacar Keïta, l'un des deux fils de l'ex-président malien, Ibrahim Boubacar Keïta, renversé par un putsch le 18 août, ont dénoncé lundi la séquestration dont il fait l'objet depuis 4 mois. Boubacar Keïta a été totalement isolé dans la maison familiale à la suite du coup d'État, affirment les avocats Djeneba Diop et Bakary Semega dans un courrier adressé à la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, une instance chargée de rendre des avis aux autorités. Si Karim Keïta, autre fils de l'ex-président malien et ancien député influent, a pu trouver refuge à l'étranger, son très discret frère cadet, Boubacar, se trouvait quant à lui dans la villa familiale au moment du putsch et n'a plus été vu en public depuis. Le dialogue a repris lundi à Abidjan, en Côte d'Ivoire, entre le pouvoir ivoirien et l'opposition en vue des législatives. Les discussions portent notamment sur la réforme de la commission électorale et la libération des hommes politiques écroués, alors que les violences liées à la présidentielle du 31 octobre ont fait 85 morts et un demi-millier de blessés entre le mois d'août et de novembre. Crise en Centrafrique, du moins. Moscou a démenti hier tout envoi de troupes sur le terrain. Nous respectons toutes les exigences des résolutions de l'ONU, a assuré Mikhail Bogdanov, le vice-ministre russe des Affaires étrangères. Le porte-parole du gouvernement centrafricain, Ange-Maxime Kazaghi, avait pourtant déclaré à l'AFP que la Russie a envoyé plusieurs centaines d'hommes, des forces régulières et des équipements lourds, sans préciser leur nombre exact ni la date de leur arrivée. Le Rwanda a pour sa part reconnu avoir envoyé des troupes dans le cadre d'un accord de coopération bilatérale avec Bangui. La France a, elle, réaffirmé la nécessité de respecter l'ordre constitutionnel et de favoriser la tenue d'élections pacifiques, transparentes et crédibles. En Tunisie, le ministre de l'Environnement ainsi que plusieurs cadres de ce ministère et des douanes tunisiennes ont été placés en détention préventive dans le cadre d'une affaire de déchets importés d'Italie. Au total, 23 personnes ont été interpellées, selon la justice tunisienne, dont le ministre de l'Environnement, Mustapha Haraoui, démis de ses fonctions dimanche. Elles sont accusées notamment de la formation d'une bande de malfaiteurs, falsification et usage de documents falsifiés et participation dans l'importation interdite de déchets dangereux. Le gouvernement marocain a annoncé lundi un couvre-feu nocturne à l'échelle nationale et de nouvelles mesures restrictives à partir de demain mercredi et pour une durée de 3 semaines pour juguler la propagation de la pandémie de COVID-19. Les autorités marocaines ont décrété un couvre-feu de 21h à 6h du matin. Les nouvelles mesures incluent aussi l'interdiction des fêtes et des rassemblements publics ou privés ainsi que la fermeture des restaurants, cafés, commerces et grandes surfaces à 20h, détaille un communiqué de l'exécutif marocain relayé par l'agence de presse MAP. Ici aux États-Unis, le Congrès américain a approuvé lundi un plan de soutien de 900 milliards de dollars pour aider les familles et les entreprises américaines durement touchées par la pandémie de coronavirus. L'approbation du plan par la Chambre des représentants puis par le Sénat ouvre la voie à la ratification de ce plan de soutien par le président Donald Trump. Et Joe Biden a reçu lundi une première dose du vaccin contre le COVID-19 de Pfizer. Le président élu des États-Unis, qui s'est fait vacciner dans un hôpital de Newark, dans le Delaware, a exhorté les Américains à en faire de même dès qu'ils en auront la possibilité. Joe Biden a annoncé qu'il ferait de la lutte contre le coronavirus qui a tué plus de 315 000 personnes ici aux États-Unis, sa priorité lorsqu'il va entrer à la Maison-Blanche le 20 janvier prochain. VOA Afrique Info, en ligne de mire dans ce journal, 143 kg d'or saisis au Mali, en route pour la Guinée. Attentat de Lockerbie, 32 ans après un Libyen inculpé ici aux États-Unis. Le ministre américain de la Justice, William Barr, contredit à nouveau le président Donald Trump sur une série d'actes judiciaires, dont le recours à un procureur indépendant pour enquêter sur les élections. Et Washington a annoncé a décidé de priver de visa les responsables chinois soupçonnés de violation des droits humains. Des nouvelles à développer juste après la pause. Dans un instant, Jean-Roger Billon à ce micro. Nous émettons de Washington. Merci de nous suivre. Nous sommes le mardi 22. La suite de nos informations en ce mardi 15 décembre. En RDC, le président Félix Tshisekedi s'est adressé à la nation hier lundi devant le Parlement réuni en congrès. Un discours sur l'état de la nation au cours duquel le chef de l'État congolais a souhaité la formation d'un nouveau gouvernement d'union sacrée pour tourner la page des humiliations qu'il affirme avoir subies au sein de la coalition avec son prédécesseur Joseph Kabila. De Kinshasa, la correspondance de Valdo Simon Yamba.
Le président Tshisekedi s'est exprimé devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès une semaine après avoir fragilisé la majorité parlementaire de son prédécesseur Joseph Kabila et rompu leur accord de coalition. Il a jugé nécessaire la formation d'un gouvernement d'union sacrée de la nation qui travaillera en harmonie avec les chefs de l'État dans ses discours annuels sur l'état de la nation. La feuille de route du prochain gouvernement qui sera issu de la nouvelle coalition nous engagera sans répit, a-t-il ajouté. Le président gouverné depuis janvier 2019 avec les FCC, les Fonds communs pour le Congo de l'ancien président Kabila, les FCC qui détenaient les postes des premiers ministres, les deux tiers des quelques 65 ministres, la majorité à l'Assemblée et au Sénat. M. Tshisekedi, qui souhaite désormais une nouvelle majorité parlementaire, a remporté une importante victoire la semaine dernière, la destitution de la présidente pro-Kabila de l'Assemblée, approuvée par une majorité des 281 députés sur 500. Le président a salué les dénouements exemplaires de cette crise politique, ce qui constitue un indice sérieux de maturité politique. Sur le plan diplomatique, le chef de l'État a annoncé la reprise de la coopération militaire avec les États-Unis. Dans le même ordre d'idées, j'annonce la création d'une école de guerre en RDC l'année prochaine, fruit de la coopération avec la France, a-t-il annoncé. La situation sanitaire en cette année 2020 reste préoccupante, notamment avec la pandémie à Covid-19. Le président Tshisekedi en appelle à la vigilance de tous face à la remontée des cas de Covid-19 qui se confirme davantage avec cette deuxième vague, notamment à Kinshasa. De Kinshasa, Valdo Simon Yamba pour VOA Afrique.
Ici aux États-Unis, les électeurs de Géorgie ont commencé lundi à voter de manière anticipée pour les deux élections partielles au Sénat. L'enjeu sera le contrôle de la Chambre haute du Congrès américain. Le point avec Michel Joseph.
Les électeurs de Géorgie doivent retourner aux urnes le 5 janvier pour le second tour des élections sénatoriales, dont le vote anticipé a commencé lundi. Le démocrate Raphaël Warnock affronte la républicaine Kelly Loeffler. Warnock, un pasteur noir de l'ancienne église de Martin Luther King à Atlanta, avait créé la surprise le 3 novembre en devançant légèrement la sénatrice sortante. Dans l'autre scrutin, l'ancien journaliste John Ossoff avait fait presque jeu égal avec 88 000 voix derrière le sénateur sortant David Perdue. L'enjeu de cette bataille est le contrôle du Sénat. D'ailleurs, Joe Biden se rend ce soir à Atlanta pour soutenir les deux candidats démocrates. Pour son premier meeting depuis la présidentielle, Donald Trump s'était déplacé en Géorgie le 5 décembre pour soutenir les deux candidats républicains. Les démocrates doivent impérativement gagner les deux sièges pour revenir à égalité face aux républicains. Car au cas où les démocrates et républicains seraient à égalité de sièges 50-50 au Sénat, c'est la future vice-présidente Kamala Harris qui, comme le veut la Constitution, va départager les votes.
La pandémie de COVID-19 a fait au moins 1,6 million de morts et plus de 72 millions de cas ont été diagnostiqués dans le monde. Une infirmière new-yorkaise est devenue, depuis lundi, la première personne à se faire vacciner contre le coronavirus aux États-Unis. Le point avec Mouhamadou Mfa.
Près de 3 millions de doses du vaccin de Pfizer et BioNTech doivent être distribuées d'ici mercredi pour vacciner quelques 20 millions d'Américains avant fin décembre. Au Canada, une aide-soignante de Toronto et une octogénaire de Québec sont devenues les premières personnes à se faire vacciner. Abu Dhabi a aussi commencé à vacciner 5 jours après l'approbation du vaccin du groupe chinois Sinopharm. Aux Pays-Bas, un confinement de 5 semaines va entrer en vigueur. Les Hollandais sont appelés à rester chez eux. En France, des milliers de professionnels de l'hôtellerie et de la restauration ont manifesté hier à Paris pour demander la réouverture de leurs établissements. La Turquie, elle, va imposer un couvre-feu de 4 jours à partir du réveillon de Nouvel An. Pour tenter de calmer les angoisses des tout-petits, une responsable de l'OMS affirme que le Père Noël est immunisé contre le Covid-19 et sera bien en mesure d'apporter des cadeaux aux enfants la nuit du 24 au 25 décembre.
l'heure de la Minute Éco et c'est avec John Lindon.
La Guinée-Bissau va recevoir un financement de 12 millions de dollars de la Banque africaine de développement. Ces fonds sont destinés à soutenir la reprise économique en Guinée-Bissau dans le cadre du COVID-19. La pandémie a lourdement affecté la campagne de commercialisation de la noix de cajou, principal produit d'exportation du pays, une filière qui emploie directement ou indirectement plus de 80% des Bissau-Guinéens. La Banque internationale du Cameroun pour l'épargne et le crédit, filiale du groupe marocain, la Banque centrale populaire, annonce avoir accordé plus de 120 milliards de francs CFA de crédit au cours de l'exercice budgétaire 2020. À 3 semaines de la clôture de l'exercice 2020, la BISEC, qui a souvent figuré parmi le trio de meilleurs prêteurs sur les 15 banques en activité au Cameroun, pourrait encore conforter cette position. Une panne massive va affecter temporairement les services de Google tels que Gmail ou YouTube lundi un peu partout dans le monde. À 11h47 GMT, Google a fait face à une panne de son système d'identification et d'authentification pendant environ 45 minutes en raison d'un problème de quota sur le stockage interne, a indiqué un porte-parole du groupe. Le problème sur le système d'authentification a été résolu à 12h32 minutes GMT et tous les services sont désormais revenus à la normale.
À présent, les sports avec Yakuba Ouédraogo.
Bonjour à tous. On connaît depuis hier les oppositions des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. En vue d'un duel alléchant entre le Paris Saint-Germain de Neymar et le FC Barcelone de Lionel Messi, l'autre superstar du football, Cristiano Ronaldo, retournera dans son Portugal natal dès février. Son club, la Juventus Turin, se déplace à Porto. C'est la première fois depuis 2016 et la confrontation en poule entre le Real Madrid et le Sporting Portugal, son club formateur que CR7 affronte une équipe portugaise. Deux autres des plus grands buteurs européens se croiseront aussi dès les huitièmes de finale. Robert Lewandowski du Bayern Munich et Ciro Immobile de la Lazio Rome. Atlético Madrid-Chelsea promet aussi des étincelles. Le Real Madrid, 13 fois titré en Ligue des Champions, défiera l'Atalanta Bergame. Manchester City affronte le Borussia Mönchengladbach. Liverpool joue Leipzig et Dortmund rencontre le FC Séville. Les matchs allés sont prévus pour mi-février et ce retour mi-mars 2021. En Ligue Europa, le tableau et le programme des 16e de finale sont aussi connus. Les Suisses de Young Boys font face aux Allemands du Bayer Leverkusen. Wolfsburg d'Autriche fait face à Tottenham. À suivre aussi Real Sociedad Manchester United ou encore Benfica Lisbonne, Arsenal. Étoile Rouge de Belgrade affronte l'AC Milan, Lille l'Ajax Amsterdam et l'Olympiakos le PSV Eindhoven. Cette triste nouvelle, Gérard Houllier n'est plus entraîneur à succès en France avec le PSG et Lyon, mais aussi en Angleterre avec Liverpool. L'ancien manager, dirigeant et sélectionneur français est mort hier à l'âge de 73 ans. Paris, Lyon et Liverpool ont rendu un hommage à l'homme qui a mené les Reds en 2001 au succès sur les deux coupes nationales et en coupe de l'UEFA avant de remporter la Supercoupe d'Europe et le Charity Shield. Gérard Houllier a remporté pour le Paris Saint-Germain son premier titre de champion de France en 1986. En rugby, l'international sud-africain Afiyie Dianti a été suspendu pour 4 ans après avoir été contrôlé positif à 3 substances interdites en août 2019, a confirmé l'Institut sud-africain de lutte contre le dopage. L'ailier de 26 ans de la franchise des Lions, basé à Johannesburg, a été contrôlé positif lors d'un rassemblement en équipe nationale l'année dernière. Le natif d'East London s'est fait connaître en 2018, engagé en super rugby sous le maillot des Lions, attirant l'attention de Roissy Erasmus, alors tout nouveau sélectionneur des Springboks. Il a inscrit 6 essais lors de ses 13 sélections et a été élu révélation de l'année par World Rugby fin 2018. Le Springboks peut faire appel de cette suspension qui le met pour l'instant sur la touche jusqu'en août 2023.
Écoutez VOA Afrique, désormais partout en Afrique. Retrouvez toutes vos émissions préférées sur la chaîne 555 de Canal+, dans tous les pays francophones. Vous pouvez également nous suivre dans une trentaine d'autres pays africains, du Nigeria au Zimbabwe, en passant par le Ghana, le Kenya, la Tanzanie et la Zambie. VOA Afrique dans tout le continent africain sur la chaîne 555 de Canal+.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon toujours en votre compagnie. À présent, les dossiers du jour. Les États-Unis ont formellement retiré ce lundi le Soudan de leur liste des pays soutenant le terrorisme, moins de deux mois après que ce pays a accepté de normaliser ses relations avec Israël. Les États-Unis avaient imposé en 1993 des sanctions contre le Soudan, accusant l'ancien président Omar el-Béchi d'entretenir des relations avec des organisations terroristes, surtout Al-Qaïda, dont le chef Osama Ben Laden a séjourné dans ce pays dans les années 90. Que gagne le Soudan dans son retrait de la liste américaine des pays soutenant le terrorisme? Yacouba Ouedraogo a posé la question à Nour el-Din Sati, ambassadeur du Soudan aux États-Unis.
Le Soudan va normaliser ses relations avec les États-Unis d'Amérique, avec le monde occidental et avec aussi la communauté des bailleurs de fonds. Est-ce considéré comme un État normal ne plus subissant les sanctions de la communauté internationale?
En dehors de ce statut d'État normal dont vous parlez, est-ce que financièrement ou économiquement, le Soudan gagne quelque chose?
C'est ça l'essentiel, parce que maintenant, vous savez, il y a des restrictions sur les échanges monétaires. Le Soudan, ça fait des années, même des décennies, il fait des transactions monétaires et financières en dehors du système monétaire international, ce qui ouvre la porte à beaucoup de malversations. Par exemple, si la diaspora doit renvoyer de l'argent au pays, c'est impossible de le faire à travers le système bancaire. Même les ambassades, même les ministères, même les hommes d'affaires des deux côtés n'ont pas la possibilité de traiter normalement avec le Soudan. Donc la possibilité du Soudan d'opérer normalement au sein du système monétaire international, moi je crois que c'est le plus important.
À quel prix le Soudan a-t-il obtenu ce retrait de la liste américaine des pays soutenant le terrorisme?
Non, moi je ne dis pas qu'il y a de prix. Il n'y a pas de prix du tout. Les Américains, la communauté internationale nous a demandé d'être un pays comme un autre, d'abandonner le système el-Béchir qui nous a éloignés de nos voisins et de la communauté internationale tout entière. Et ce qu'on nous demande, c'est exactement ce que nous voulons, ce que le peuple a décidé, c'est-à-dire les libertés, les droits de l'homme. Ce n'est pas un prix que nous payons.
Le Soudan a quand même annoncé la normalisation de ses relations avec Israël.
Bon, moi je crois que ça, ce n'est pas un prix à payer, c'est-à-dire parce que pendant une soixantaine d'années, nous avons tenu des relations d'hostilité avec l'État d'Israël. Nos leaders politiques estiment que le moment est venu pour que le Soudan, maintenant, poursuive une politique différente de réconciliation, de paix et de stabilité dans la région.
L'ancien président Omar el-Béchir a été évincé du pouvoir en 2019 par un soulèvement populaire. Le Soudan est retiré de la liste américaine des pays soutenant le terrorisme. Une transition civile et militaire est en place à Khartoum. Est-ce qu'on pourrait dire que le Soudan est de retour dans le Conseil des Nations?
Absolument et entièrement, oui. Oui, le Soudan est de retour. Justement, la révolution a eu lieu justement pour dénoncer, rejeter, refuser les politiques qui nous ont rendu, disons, un État paria, comme on dit, et que nous voudrons rétablir des relations normales avec la communauté internationale après une trentaine d'années d'absence.
Nour el-Din Sati, ambassadeur du Soudan aux États-Unis, joint ici même à Washington.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Au Nigeria, colère et indignation dans l'état de Katsina, dans le nord-est du pays, suite à l'attaque et l'enlèvement de plus de 600 élèves de l'école secondaire publique de Kankara, selon les médias locaux, plus de 300 selon le gouverneur de l'état. Les parents des enfants enlevés sont descendus dans les rues pour réclamer le retour de leurs enfants. Le reportage de Gilbert Tamba, notre correspondant à Abuja.
Nous voulons nos enfants, nous voulons la sécurité ou encore le banditisme. Trop, c'est trop. C'est avec ces slogans que les parents des enfants portés disparus ont marché dans les rues pour demander aux autorités de ramener leurs enfants. Des coups de feu sporadiques ont été entendus dans les rues de Kankara pendant au moins 2 heures vendredi dernier. L'école secondaire scientifique publique de cette ville aurait été attaquée et de nombreux élèves auraient été enlevés par les assaillants. Trois jours après l'incident, c'est encore la confusion autour du nombre exact d'enfants portés disparus. Certains médias locaux parlent de plus de 600 enfants enlevés, mais le gouverneur de l'état de Katsina, Aminu Bello Massari, révise à la baisse ses bilans.
L'école est un centre à régime internat où étaient hébergés des enfants provenant de toutes les localités de l'état de Katsina, ainsi que d'autres en dehors de l'état. Il y avait au total 839 élèves et jusqu'à présent, nous sommes à la recherche de 333 élèves. Et nous continuons à compter parce que d'autres continuent de s'échapper et arrivent en provenance des forêts.
Des renforts de police ont été déployés pour renforcer la sécurité et aider à rechercher des élèves disparus. Les résidents disent que quelques 406 des élèves enlevés ont été secourus jusqu'à présent. Ce n'est pas la première fois que les internats des écoles publiques sont visés par des attaques. Sanusi Touré est un ancien officier de la police de Londres, aujourd'hui consultant en sécurité au Nigeria.
Nous sommes dans une situation difficile au Nigeria. C'est inquiétant. Et cela n'a pas commencé aujourd'hui. C'est quelque chose qui s'est développé depuis des années, voire des décennies. C'est le résultat de ce que nous vivons maintenant avec de sérieux problèmes d'insécurité. Partout dans le pays, on parle d'enlèvement, de banditisme, d'insurrection et de la fraude.
L'attaque rappelle celle de Chibok en avril 2014, où des éléments de Boko Haram ont réussi à enlever plus de 200 jeunes filles. Ben Okezie, analyste de sécurité.
Cela m'a rappelé l'épisode de Chibok. Concernant le cas de Chibok, les assaillants sont venus avec un camion. Mais cet autre scénario nous dit qu'ils sont venus à moto. Donc, je me demande comment ils ont pu enlever tous ces enfants.
Cette attaque survient deux jours après l'enlèvement d'un chef de village et de 20 autres personnes dans une autre localité de l'état de Katsina. Aucun groupe n'a revendiqué cet enlèvement massif ni fait des demandes. Les groupes armés kidnappent souvent des personnes contre rançon dans la région, ce qui met en évidence une insécurité grandissante au Nigeria. Gilbert Tamba, Abuja, VOA Afrique.
Abdourahmane Dia avec vous. Dans Washington Forum cette semaine, la journée internationale des migrants est célébrée ce vendredi 18 décembre. L'occasion pour nous de braquer nos projecteurs sur les 272 millions de migrants officiellement recensés dans le monde. Entre ceux qui fuient des conflits, des persécutions ou encore ceux qui sont partis à la recherche d'une meilleure situation socio-économique, la diversité de la population de migrants s'affirme de plus en plus. Comment éviter une immigration risquée pour des millions d'Africains? Comment garantir le respect des droits des migrants? Quels défis pour les pays d'accueil? Nous discuterons de tout cela avec nos invités ce jeudi 17 décembre à 19h temps universel sur VOA Afrique et voafrique.com.
Ici aux États-Unis, près de 3 millions de doses du premier vaccin COVID-19 seront livrées cette semaine aux différents États pour être administrées aux travailleurs de la santé à haut risque. Le nombre de décès dus au nouveau coronavirus ne cesse d'augmenter. Le point dans ce reportage de Michel Quinn, le récit est de Lionel Gaïma.
C'est un moment d'espoir dans une période sombre. Les camions roulent à toute vitesse à travers les États-Unis pour livrer 2,9 millions de doses du premier vaccin COVID-19. Les premiers bénéficiaires de ce vaccin Pfizer-BioNTech seront les travailleurs de la santé à haut risque et les personnes qui vivent et travaillent dans des établissements de soins de longue durée. L'enthousiasme avec ce débit d'effort de vaccination survient alors que, selon l'université Johns Hopkins, le COVID-19 a fait près de 300 000 morts dans le pays. Le New Jersey est un des États très touchés avec une flambée de nouveaux cas. Phil Murphy est le gouverneur démocrate du New Jersey.
Malgré toutes les bonnes nouvelles, la lumière au bout du tunnel et le vaccin l'illustrent bien, les prochaines semaines seront l'enfer, je le crains. Nous supplions les gens, s'il vous plaît, ne baissez pas la garde.
Avec ce début de vaccination, l'Agence américaine de médicaments envisage aussi d'autoriser d'urgence le vaccin de Moderna. Les responsables de la santé craignent que certaines personnes soient réticentes à se faire vacciner. Le docteur Stephen Parodi est directeur exécutif associé au groupe médical Kaiser Permanente.
Il y a beaucoup de gens qui hésitent à se faire vacciner pour un certain nombre de raisons. Je pense que nous devons communiquer sur la sécurité, l'efficacité de ces vaccins, l'importance que ça signifie pour nous individuellement et pour notre communauté globale.
Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a mis en garde contre le nationalisme vaccinal qui pourrait marginaliser les pays les plus pauvres dans les opérations de vaccination. Il existe aussi d'autres risques, d'après Chizoba Wonodi, directeur pour le Nigeria, au Centre international d'accès aux vaccins à l'Université Johns Hopkins.
And so, where is that money going to come from?
D'où viendra l'argent? Cet argent va certainement remplacer les dépenses de santé pour d'autres choses. Et si vous pensez au fardeau de la maladie dans les pays en développement, il y a beaucoup de gens qui se demandent comment les transferts d'argent pour le vaccin vont peser sur d'autres programmes de santé.
La cavalerie de vaccins vient juste de s'ébranler et d'autres fantassins vont suivre afin de venir à bout de ce Covid-19 qui aura complètement changé la face de la planète.
VOA Afrique, une fenêtre sur le monde.
Le label américain Sahel Sounds, spécialisé dans la musique du Sahel, publie des mini-albums mensuels en ligne que des artistes en Afrique enregistrent sur des téléphones mobiles. Les enregistrements sont ensuite envoyés à Portland, dans l'Oregon, via WhatsApp et offrent ainsi une opportunité financière et une chance d'être repéré sur la scène mondiale. Arzuma Compaoré.
Dans sa cour de Bamako, au Mali, Ali Traoré, 26 ans, est en pleine séance d'enregistrement de son mini-album accompagné d'un batteur de calebasse. Dans son studio improvisé en plein air, Ali s'applique. Il prend très au sérieux son travail. Il utilise une application d'enregistrement musical et enverra tout à l'heure sa nouvelle chanson à son producteur, basé à Portland, dans l'état d'Oregon. Pour lui, c'est une véritable aubaine.
Ici, un label du Mali là, ne peut pas t'amener aux États-Unis ou bien de faire des tournées internationales. Il n'y en a pas ici.
La maison de production est spécialisée dans la musique du Sahel et s'intéresse aux artistes des pays comme la Mauritanie, le Mali, le Sénégal et le Niger. Sahel Sounds produit généralement des albums vinyles, mais en janvier, la maison de production a décidé de sortir chaque mois un mini-album en ligne, enregistré et transféré via téléphone mobile grâce à l'application WhatsApp. Christopher Kirkley est le fondateur de Sahel Sounds.
Le concept du projet est de contacter un artiste, puis de lui faire enregistrer un EP, 4 à 5 titres, directement sur son téléphone portable, puis d'envoyer ces titres à Sahel Sounds via WhatsApp. Après cela, après quelques échanges, nous rassemblons toutes ces informations et les publions sur Bandcamp.
We'll get all that information together, put it up on Bandcamp.
La technique d'enregistrement Lo-Fi, abréviation en anglais de basse fidélité, consiste à assurer une qualité de production dans laquelle les éléments généralement considérés comme des imperfections d'un enregistrement ou d'une performance sont audibles et sont parfois comme un choix esthétique délibéré. La méthode Lo-Fi s'est avérée un succès surprenant, supprimant les coûts de production et rapportant à certains des artistes participants de belles sommes de la part de fans qui payent pour télécharger les pistes. C'est essentiellement une expérience pour voir, vous savez, comment nous pouvons faire tomber ces barrières d'entrée pour les artistes en Afrique de l'Ouest et qui n'ont vraiment pas accès à des choses comme, disons, une carte de crédit ou PayPal. Généralement, les artistes font entre, je dirais, 800 et les plus grands artistes ont fait environ 3 000 $ en un mois. Mais comme pour Ali, les motivations des artistes ne sont pas toujours uniquement financières. Il rêve surtout de devenir aussi grand que son oncle, l'icône musicale malienne Afel Bokoum.
Aujourd'hui, je ne suis pas connu internationalement. Et raison pour laquelle je fais ça, ça peut m'ouvrir beaucoup, beaucoup. Même s'il ne me donne pas l'argent, ça peut m'ouvrir beaucoup de portes. Peut-être il va y avoir un producteur qui peut voir ça quelque part dans le monde.
Les enregistrements WhatsApp ont commencé bien avant la pandémie du nouveau coronavirus, mais se sont accentués avec elle.
Tous les profits du téléchargement du projet d'un an vont aux artistes. Certains artistes sont surpris de voir combien d'argent ils ont gagné grâce à un enregistrement sur téléphone portable en si peu de temps.
Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition matinale. À la mise en onde, Michel Joseph. Présentation Jean-Roger Billon. On reste en contact sur Facebook. Et rendez-vous également sur notre site voafrique.com pour l'actualité 24h sur 24. Bonne journée à tous.